Afrique Soir.
Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez les 21h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, Joe Biden attendu en Angola à la mi-octobre, un choix stratégique pour les Américains. Ce sera sa dernière visite à l'international et surtout sa toute première en Afrique en tant que président des États-Unis. La recrudescence des viols en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières affirme avoir soigné en 2023 25 000 victimes de viols dans 5 provinces du pays, c'est-à-dire plus du double qu'au cours des années précédentes. Nous irons à Kisangani dans la province de la Tchopo. Et puis la disparition d'une légende du basketball, le Congolais Dikembe Mutombo, figure de la NBA dans les années 90, est mort à l'âge de 58 ans. Il avait joué une vingtaine de saisons dans la prestigieuse Ligue américaine. Il est en fin de mandat et pour son premier déplacement en Afrique, Joe Biden a donc choisi l'Angola. Il y sera du 13 au 15 octobre, un choix éminemment stratégique pour les États-Unis qui veulent consolider leur place auprès de Luanda. Alors que la Chine a avancé ses pions depuis longtemps, le président américain va mettre l'accent sur la réhabilitation du corridor ferroviaire du Lobito, 1300 km de voies ferrées reliant le port angolais de Lobito à la région de Lubumbashi. En RDC, une zone de production majeure de cuivre et de cobalt, projet qualifié par Joe Biden de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Charlotte Cossé.
Dans ce projet, les États-Unis et l'Europe se sont alliés. 630 millions d'euros ont déjà été mobilisés afin de rénover le tronçon côté congolais pour exporter les minerais via la côte ouest. Un projet pourtant initialement porté par la Chine, qui a elle investi plus de 2 milliards d'euros pour réhabiliter la voie côté angolais et qui s'est vu ravir le contrat d'exploitation. Pour contrer cette offensive, Pékin a proposé de relancer la ligne historique Tazara, qui permettrait l'exportation du cuivre et du cobalt par la côte est via la Tanzanie. Qu'à cela ne tienne, les États-Unis proposent désormais de prolonger le couloir de Lobito vers Dar es Salaam. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, ce positionnement américain illustre la course au contrôle non seulement des ressources, mais surtout des voies d'exportation. La Chine est de loin le premier partenaire commercial de l'Angola avec près de 60% des échanges pour les Occidentaux. Il s'agit d'un interlocuteur stratégique à conserver, un État africain qui reste ouvert à des accords commerciaux avec les capitales occidentales, contrairement à un nombre grandissant d'États qui préfèrent se tourner vers de nouveaux alliés.
Le prix d'achat du cacao aux planteurs du Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 1800 francs CFA, autrement dit 2,7 euros le kilo, un montant record après une année où les cours mondiaux ont atteint des sommets. C'est le gouvernement qui a décidé d'une hausse de 20%, a déclaré Kobenyan Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture ivoirien. Les promesses des nouvelles autorités sénégalaises de faire le ménage après celle du Premier ministre Ousmane Sonko d'enquêter sur ce qu'il qualifie de corruption généralisée du régime sortant, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé dans une interview à Al Jazeera qu'un comité chargé de passer en revue les contrats signés par le Sénégal avec des entreprises étrangères s'était mis au travail. Léa Lisa-Westerhoff.
Ce réexamen des contrats signés avec les multinationales, avec en ligne de mire une possible renégociation si le Sénégal ne devait pas être gagnant, c'est l'une des nombreuses promesses électorales des nouvelles autorités. Promesses renouvelées dans le discours d'investiture de Bassirou Diomaye Faye en avril. Le 19 août dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a ainsi officiellement installé cette commission, avec à son bord des hauts cadres de l'administration sénégalaise, des experts juridiques, fiscaux et du secteur de l'énergie, chargés de revoir en priorité les contrats miniers, pétroliers et gaziers. Depuis, aucun détail sur le travail de ces experts n'a filtré, mais sont très attendus l'analyse du contrat avec Woodside, la compagnie australienne qui exploite le bloc pétrolier à 100 km au sud de Dakar, et British Petroleum qui opère le champ gazier partagé avec la Mauritanie dans le nord du pays, près de Saint-Louis. Aucun calendrier n'a pour l'heure été annoncé. Le travail sera fastidieux, a d'ores et déjà prévenu le Premier ministre fin août, qui assure qu'il ne s'agit pas, je cite, de nationaliser ou de tout raser, mais de rééquilibrer si besoin le gain partagé pour les deux parties. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
20h passées de 35 minutes à Yaoundé, l'affaire Martinez-Zogo, du nom de l'animateur de la radio Amplitude FM, enlevé, torturé, puis assassiné en janvier 2023 près de Yaoundé, a soulevé une vague d'indignation au Cameroun. La 9e audience du procès de son meurtre s'est ouverte ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé, alors qu'on devait entrer dans une phase décisive avec le début des débats de fond. Les conseils des accusés ont réclamé la libération de leur client, Richard Onanena.
Pendant 2 heures, l'avocat d'Amogo Bellinga, homme d'affaires et patron d'un groupe de médias accusé de complicité dans cette affaire, a dénoncé ce qu'il estime être des violations des droits de son client. Maître Charles Tchungan déplore notamment des perquisitions sans mandat, des heures indues et l'absence des procès-verbaux pour ces perquisitions. Pour le commissaire du gouvernement, ces exceptions de nullité sont prématurées car jusqu'à présent, personne n'a eu accès au dossier en dehors du ministère public. Les avocats de la défense ont également remis en cause la procédure ayant mené à l'arrestation des accusés, dénonçant l'absence d'enquête préliminaire. Quand un cadavre est découvert, pas besoin d'enquête préliminaire, répond Maître Assira, avocat pour la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE. Il y a directement une enquête de flagrance, ajoute-t-il. Le représentant de l'État a également appelé le tribunal à requalifier les chefs d'accusation à assassinat et à rejeter la demande de remise en liberté provisoire d'Amogou Bellinga. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Médecins sans frontières s'inquiète de la recrudescence des viols en République démocratique du Congo. L'ONG affirme dans un rapport qu'elle a soigné en 2023 25 000 victimes, soit plus du double qu'au cours des années précédentes. Et dans le nord-est du pays, dans la province de la Tchopo, l'augmentation des cas de viol préoccupe également les autorités sanitaires. Et c'est le cas à Kisangani, Joseph Kaongo.
Victime d'un viol dans un quartier populaire de Kisangani, cette fille de 17 ans a accepté de témoigner anonymement sur ce qu'elle a subi alors qu'elle était seule dans la maison de ses parents.
Il était 12 heures ce jour-là, j'ai vu notre voisin entrer dans la maison. Il a dit qu'il voulait être mon mari. J'ai refusé, il m'a forcé à coucher avec lui et je suis tombée enceinte.
Sa famille et les violeurs ont trouvé un arrangement à l'amiable, ce qui a évité à ce dernier des poursuites judiciaires. Ce manque de dénonciation est justement un frein à la lutte contre les viols, regrette le docteur Marie-Thérèse Mokaria, coordonnatrice provinciale du Programme national de la santé de la reproduction.
Dans la communauté, c'est plus l'esprit de résolution des problèmes à l'amiable et ces filles sont abandonnées à leur propre sort. Et il faut noter que les cas qui arrivent dans des structures, ce sont des cas qui connaissent des complications. Bien, ce sont des cas qui sont référés par la police parce que la police veut avoir les éléments à travers la réquisition à médecin.
En 2023, la province de la Tchopo a enregistré 1976 cas de violences sexuelles. Un chiffre alarmant, s'inquiète le docteur Marie-Thérèse Mokaria. Selon la coordination provinciale du Programme national de la santé de la reproduction, l'augmentation des violences sexuelles dans la Tchopo est principalement due aux conflits communautaires et au manque de poursuites judiciaires. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
La disparition d'une légende du basketball, le Congolais Dikembe Mutombo, figure de la NBA dans les années 90, est mort à l'âge de 58 ans. Il avait joué une vingtaine de saisons dans la prestigieuse Ligue américaine. Baba Kardira.
Dikembe Mutombo, c'était d'abord une voix imposante, presque déstabilisante. Ce jour de 2015 à Springfield aux États-Unis, il disait toute sa fierté d'être intronisé au Hall of Fame, l'équivalent du panthéon du basket américain. Car du haut de ses 2,18 m, le pivot congolais avait écrit sa légende pendant une carrière longue de 18 ans en NBA, en étant nommé 4 fois meilleur défenseur de la Ligue. Près des paniers, il a magnifié l'art du contre, le tout avec humour et un geste avec le doigt qui bouge de gauche à droite pour chambrer ses adversaires, dont le meilleur joueur de l'époque, Michael Jordan, qui se gargarisait de pouvoir contourner sa montagne de muscles. Dikembe Mutombo avait touché du doigt par 2 fois le titre NBA lors de 2 finales perdues, en 2001 avec Philadelphie, puis en 2003 avec New Jersey, mais son héritage a dépassé les parquets de basketball avec la construction en 2005 dans sa ville natale de Kinshasa de l'hôpital Biyomba Marie Mutombo, nommé en hommage à sa mère. Une suite logique pour celui qui, jeune, n'était pas destiné à devenir basketteur, mais médecin. Une fois retraité, Mutombo avait poursuivi ses œuvres caritatives tout en endossant un rôle d'ambassadeur mondial de la NBA où chacune de ses sorties à travers le monde rappelait sa cote de popularité.
Et puis Samuel Eto'o privé pour les 6 prochains mois de toute apparition au match des sélections nationales camerounaises. Sanction de la FIFA, on lui reproche d'avoir eu un comportement offensant lors de 8e de finale perdue par les Camerounaises lors de la Coupe du Monde. Des moins de 20 ans, il avait contesté un pénalty, mais il a tout de même le droit de conserver ses fonctions à la tête de la Fédération du Cameroun.